Nous allons conclure donc avec la restitution des différents ateliers. Et Pierre Carbone conclura cette journée d'études. Merci d'abord d'avoir respecté le timing et de ne pas vous être perdu dans l'immensité de la BPI. Vous avez failli rester coincé d'ailleurs, puisque la moitié du mur coupe-feu a glissé tout doucement en cours d'intervention. Personne ne s'en est rendu compte.
C'était pour...
Alors, je vais peut-être commencer par, comme il se doit, donc l'atelier numéro 1. Alors, je remplace, je suis la doublure d'Alexandra Sameur, puisque c'est elle qui a, pris des notes, synthétisé une partie de ces notes, mais c'est moi qui vais faire ce rapport donc sur l'atelier numéro 1. Donc, qui était consacré, intitulé en tout cas à l'origine, pratique de lecture numérique. Alors, je vais revenir sur l'ambiguïté justement de cet intitulé. Pour faire ce petit compte-rendu, je ne sais pas s'il sera très fidèle, hein, puisqu'il est filtré en gros par ce que moi j'ai écouté et retenu, et ensuite par ce que j'ai pu intégrer de ce qu'Alexandra Sameur et Nolwenn Trehendar ont pu prendre en note. Donc pour faire ce compte-rendu, je vais explorer deux rubriques. La première rubrique qui porte sur la question du doute, et la deuxième rubrique qui porte sur la question des quasi-certitudes, avec parfois, vous allez voir, des choses très assez ambivalentes, voire contradictoires dans certains cas. Alors je reprends une formule de Guillaume Tesser, hein, qui donc a démarré cet atelier avec une présentation de la communauté virtuelle Babelio, hein, qui est une communauté de lecteurs, sinon de lecture, une sorte de salon numérique de lecteurs, et qui disait que nous étions entrés dans la culture du soupçon. En gros, il prenait cette image pour parler des personnes qui étaient abonnées à Babelio, hein, des adhérents et des contributeurs, et qui en gros, s'installaient dans une situation de défiance par rapport à la critique professionnelle et par rapport à la critique institutionnelle. Donc moi, je reprends un peu cette image donc de la culture du soupçon pour commencer par cette rubrique des doutes. Alors tout d'abord, on a exprimé à juste titre, mais c'était assez volontaire, des doutes sur le périmètre de l'atelier, hein, donc intitulé « Pratique de lecture numérique », alors même que les interventions portaient beaucoup sur la question du livre, souvent d'ailleurs sur le livre numérique, voire sur les supports, à certains moments sur la question des modèles économiques, donc on pouvait sembler être très loin des pratiques effectives de lecture numérique. Parfois, d'ailleurs, il était question plutôt de pratique numérique de la lecture plutôt que de pratique de lecture numérique, hein, puisque sur Babelio, effectivement, on fédère une communauté de lecteurs qui parlent de ces lectures, sachant que la très grande majorité de ces lectures sont effectuées sur des supports imprimés, donc des lectures tout à fait traditionnelles. Mais elles donnent lieu, effectivement, à des interventions qui, elles, sont tout à fait économiques. Voilà. Autre ambiguïté qui était signalée par Alexandra Sameur, qui a eu le sentiment que, en fait, de pratique de lecture, on parlait très souvent de pratique d'écriture, et pas nécessairement de pratique de lecture, bon, et notamment de pratique d'écriture numérique et de contribution, effectivement, à des forums, à des blogs, à des formes d'enrichissement aussi des pratiques de lecture. Et elle se demandait justement s'il n'y avait pas une ambiguïté sur cette terminologie de lecture sociale, qui dit bien ce qu'elle veut dire dans le deuxième terme, hein, sur l'aspect justement social, socialisé, mais qui, en fait, n'est pas à proprement parler une forme de lecture. Voilà, donc un gros doute sur le périmètre, une ambiguïté qui a quand même été levée dans la mesure où il était question justement de pratiques de lecture numérique, de méthodologies d'enquête pour essayer de saisir ces pratiques de lecture numérique et de services tels que celui de Babelio. Des doutes assez forts également ont été exprimés en ce qui concerne les méthodes employées pour essayer de saisir les pratiques de lecture numérique actuelles. Donc des doutes qui étaient exprimés sur la validité des dispositifs qu'on pouvait mettre en œuvre hein, pour essayer de saisir ces méthodes. Le fait notamment qu'on importait des anciennes catégories dans ce travail d'exploration, des anciennes catégories qui relèvent du monde du livre traditionnel. Hein, et le fait tout simplement, ce qu'on a très bien vu d'ailleurs avec les enquêtes Livre Hebdo et CNL Ipsos pour le Salon du Livre, le fait qu'on résume souvent la question de l'évolution des pratiques de lecture à la question de l'évolution des pratiques de lecture de livres. Et qu'aujourd'hui, on soit très souvent focalisé sur la question du livre numérique quand on parle des pratiques de lecture numérique qui, pourtant, outrepassent très largement cette question du livre numérique. Dominique Boulier en a déjà parlé. Voilà, donc des doutes également d'un point de vue méthodologique sur la question de la taille des échantillons. Alors on va voir que par rapport à ces doutes, on peut avoir du côté des quasi-certitudes un certain nombre d'éléments un peu plus positifs. Je vais y venir très vite. Des doutes enfin qui ont été portés par Paul Godric et Gérard Mauger également sur l'aspect véritablement révolutionnaire des changements en cours et notamment du basculement des pratiques de lecture traditionnelles vers les pratiques de lecture numérique. Donc Paul Godric employait une formule que je trouve tout à fait adaptée, hein, c'est-à-dire qu'il parlait plus souvent de changement dans la continuité plutôt que de rupture franche et de révolution au sens fort du terme. Il trouvait même qu'il y avait parfois un côté anticyclique à ce qu'il pouvait constater. Gérard Mauger notamment signalait que les fonctions sociales de la lecture, ou ce qu'il avait appelé autrefois les usages sociaux de la lecture, hein, étaient relativement peu impactées en fait, par l'évolution des pratiques de lecture à la faveur du numérique. Hein. Donc lire pour s'évader, se divertir, lire pour se documenter, pour apprendre, lire pour se sauver, hein, donc la fonction salutaire, ou la fonction esthétique, lire pour le plaisir du texte. C'est vrai qu'ils avaient l'impression, et notamment qui concerne la dernière instance, hein, la lecture esthétique, qui avait peu d'impact en fait, du numérique sur les pratiques de lecture, à ce niveau-là en tout cas. Paul Godric disait notamment que le web social est sans doute très important, qui fait tomber un certain nombre de barrières, mais dans les entretiens qu'ils font aujourd'hui avec des lecteurs numériques expérimentés, ils voient bien que certains ont quand même la volonté d'identifier la position sociale des intervenants, c'est-à-dire que l'aspect social reste pour un certain nombre de lecteurs, ou en tout cas d'intervenants sur ces réseaux sociaux, assez important. Et puis, dernier doute, qui pour certains était une certitude et qui pour d'autres méritait d'être discuté un peu plus, c'était sur la question de l'avenir des liseuses. C'était assez amusant hein, d'entendre Dominique Boulier dire à cette tribune que pour lui, les liseuses n'avaient aucun avenir. Et ce qu'il arrivait évidemment à argumenter avec l'essor des tablettes numériques tactiles et surtout l'utilisation des smartphones hein, pour un certain nombre de pratiques de lecture. Alors Paul Godric, à ce niveau-là, il mettait un bémol et disait que pour certaines formes de pratiques de lecture immersive, et notamment la lecture littéraire, la lecture romanesque, la liseuse électronique pour ce segment et pour cette population, plus souvent d'ailleurs de lectrices aujourd'hui que de lecteurs, il y avait sans doute un peu d'avenir pour les liseuses électroniques. Du côté des quasi-certitudes, d'abord, sur ce point, je me reposerai sur l'introduction de Gérard Mauger à la présentation de Paul Godric, hein, qui rappelait notamment l'importance de la matérialité des supports et des formats en ce qui concerne effectivement les pratiques de lecture. Et là, pour le coup, effectivement, un certain nombre de certitudes ou de quasi-certitudes se dessinent quant au fait que, à partir du moment où on change radicalement de support, de modalité de lecture, et notamment avec tout ce que l'hypertexte, par exemple, peut permettre, la nouvelle mise en page numérique des écrits, par définition presque, les pratiques de lecture sont appelées à changer un peu, les pratiques d'appropriation des textes. Premier point. Deuxième point, en termes de constat fort, hein, sinon de quasi-certitude, l'aspect parfois un peu libératoire que le numérique peut apporter en ce qui concerne les profils de lecteurs actuels et les modalités de lecture. Alors, c'est un peu l'idée que le numérique donc, serait susceptible de libérer le lecteur et de l'engager parfois dans des voies de lecture qu'il prendrait moins facilement en dehors de ce basculement dans le numérique. C'est notamment tout ce qui a été évoqué par Guillaume Tesser de Babelio sur la question de l'évolution des modèles de prescription traditionnelle. Et là, pour le coup, Babelio effectivement apporte un peu de neuf, hein, c'est manifeste, avec notamment un bouche à oreille plus souvent positif que négatif, mais aussi des ouvrages sur Babelio dont on parle et dont on parle beaucoup moins en fait dans le milieu critique institutionnel et a fortiori dans le milieu critique professionnel, ou alors dont on parle parfois vraiment par défaut et de manière très critique et très négative. Et notamment des genres donc, qu'on voit un peu, non pas émerger, mais en tout cas en termes de volume, parfois être un peu plus commentés, lus, achetés, la littérature érotique. La question également de la science-fiction et de la fantasy qui est revenue assez souvent dans plusieurs présentations. La question des best-sellers aussi sur Babelio, effectivement, on voit que bon nombre de commentaires portent sur ce qu'on pourrait appeler des best-sellers au sens fort du terme, hein, des auteurs comme Marc Lévy, Guillaume Musso et d'autres encore, hein, à côté de figures un peu plus classiques comme Murakami, mais qui est un petit peu à la charnière de ces univers. Autre petite parenthèse que j'ouvre dans cet aspect parfois un peu libératoire, et ça c'est tiré justement de l'enquête Livre Hebdo Ipsos, on voit que dans le classement des livres les plus lus par les personnes qui déclarent avoir lu des livres numériques au cours de l'année, la littérature classique figure en première position. Ce qui, a priori, est un peu contre-intuitif, hein, puisque tout le monde la donnait pour morte ou quasi-morte, hein, avec l'évolution des pratiques de lecture et l'évolution notamment le développement de ce qu'on appelle le lire utile aujourd'hui. Et on voit bien que la littérature classique, et notamment les classiques libres de droit, trouvent leur chemin assez facilement, manifestement dans certaines liseuses, dans certaines tablettes, mais surtout sont lues, hein, et manifestement, d'après Paul Godric aussi, mais qui n'a pas eu le temps de s'exposer sur ce question, sont parfois appréciés par certains lecteurs. Et troisième point dans cette rubrique résultats, constats et quasi-certitudes, beaucoup d'éléments d'intervention et ensuite dans le cadre de la discussion beaucoup de commentaires ont été faits sur la question des traces. Et alors là on pourrait faire un lien assez facilement avec l'atelier qui a eu lieu tout à l'heure dans ce même endroit, hein, sur la question justement des données, hein, et de l'ouverture des données. Donc Dominique Boulier rappelait effectivement qu'on dispose aujourd'hui de gisements de données considérables qu'il convient d'exploiter avec les bons algorithmes, avec les bons cadres, avec les bons tamis, pour essayer d'en faire justement une analyse pertinente. Au point même parfois d'ailleurs de ne pas avoir besoin de faire d'enquête, parce qu'on a déjà en banque des données qui permettent justement de poser un certain nombre d'interprétations. Alors sur cette question des traces, ce qui était assez intéressant aussi, c'est qu'il s'agit de traces à la fois statistiques, algorithmiques, des traces intellectuelles aussi, parce qu'il va falloir les interpréter, mais aussi des traces tout à fait physiques, hein, c'est-à-dire que ces traces, on peut aussi en donner une représentation visuelle, et je pense que ça a été assez marquant pour les personnes qui ont eu l'occasion justement de visualiser les cartographies que Dominique Boulier a projetées ici. Hein, effectivement, manifestement, on peut faire du sens avec une exploitation visuelle de ces traces numériques d'usage, de lecture ou de commentaire sur cette matière littéraire. À condition, rappelait Dominique Boulier, mais et là il faudra qu'il nous donne des indications à ce sujet, à condition d'avoir le bon algorithme et d'avoir le bon logiciel, parce que manifestement, dans ce domaine, il y a des choses qui sont parfois tout à fait inopérantes. Donc on peut voir des choses, on peut visualiser des choses, et Babelio rappelait notamment qu'on pouvait parfois mesurer avant même que l'ensemble de la société en prenne connaissance, des succès qui commencent à frémir ou des succès improbables. Il donnait notamment pour Babelio l'exemple du cercle des éplucheurs de patates qui avait frémi, si je peux utiliser l'expression comme ça, assez vite sur Babelio, et qu'on pouvait suivre d'une certaine façon à la trace, justement. Voilà. Et Dominique rappelait aussi que ce qui moi pouvait d'ailleurs me surprendre un petit peu, voire même à un certain niveau me heurter, mais c'est ça qui me paraissait intéressant là dans la confrontation des idées. Pardon. Ok. Je vais très vite. Donc que nous devons perdre tout espoir de représentativité pour passer à la variété. Voilà, donc tout un programme, notamment avec la question du 3V du Big Data, variété, volume, vélocité. Je termine juste par un petit point qui a été lancé dans la discussion, et là c'est une balle qu'il faudra prendre au rebond justement peut-être pour la fondation d'un éventuel observatoire des usages du numérique à la BPI, c'est la question du partage collectif des travaux d'enquête et notamment des méthodologies appropriées qui pourraient être utilisées justement par les institutions culturelles publiques, mais de manière concertée et collective pour faire en sorte de faire sens et de faire masse pour interpréter au mieux toutes ces données. Voilà. Pour l'atelier numéro 1.
Oui. Alors, concernant l'atelier numéro 2, l'apport du public au travail scientifique, cet atelier a réuni trois points de vue autour de ce sujet. Le point de vue de l'institution avec l'intervention d'Edouard Bouillet, directeur des archives départementales de la Côte d'Or. Le point de vue de Rémi Natis, conservateur à la BNF, mais qui ici nous livrait le point de vue du contributeur en tant que président du conseil d'administration de Wikimedia France. Et enfin, le point de vue de l'usager avec l'intervention de Benjamin Gilles autour de la lecture, auteur de lecture de Poilu, livres et journaux dans les tranchées. Quels enseignements de cet atelier du côté de la contribution et de la mise en place de projets collaboratifs permettant au public d'intervenir sur ou autour des documents des institutions? L'enjeu est de savoir créer un cercle vertueux, ont pu nous dire les différents intervenants, où le travail de chacun va pouvoir profiter à tous et chacun va trouver un bénéfice à y participer. Une des clés du succès de projets collaboratifs est d'atteindre une masse critique de contributions, et ceci passe par la visibilité du projet pour aller chercher la communauté des usagers susceptibles de trouver un intérêt et donc de participer. Plusieurs intervenants ont pointé sur la nécessité, l'importance de la communication autour de ce projet collaboratif quand il est mis en place. Une autre condition de succès est d'offrir des services simples et intuitifs. L'idée ici développée par M. Bouillet est que l'indexation pauvre de quelques signés peut être riche en nombre de contributions. La liberté aussi d'intervenir facilement, voire de donner la possibilité d'intervenir anonymement, va aussi être un facteur de réussite pour un projet collaboratif. Mais face à cette liberté, on peut craindre le vandalisme, ce qui pourrait être un frein pour les institutions culturelles à laisser la main au public. Nos intervenants nous ont plutôt laissé penser, et plutôt parlé d'une bienveillance naturelle. Non seulement la malveillance existe peu, mais en plus le public est acteur également du contrôle et de la surveillance de ces systèmes pour préserver la fiabilité des données. Comme nous l'a dit Édouard Bouillet, la malveillance est gênante que si on la découvre, et alors on peut la corriger. Les enseignements du côté des utilisateurs des utilisations des données, devant la masse importante de nouvelles données mises à disposition, on pourrait tendre une difficulté accrue de s'y retrouver pour les chercheurs. Mais avec le témoignage de Benjamin Gilles, cela ne semble pas le cas. En effet, avec l'arrivée de fonds inédits apportés par le web, de nouveaux outils ont vu le jour, comme la liste de diffusion sur l'échange de sources, des forums ou des encyclopédies libres. Le web sémantique peut être aussi une ouverture pour apporter du filtre, du tri dans ces données. Pour le chercheur, l'enjeu est la qualification des données. À partir du moment où les sources sont claires, les données venues du monde des amateurs apportent une grande complémentarité. L'exemple de la grande collecte de 14-18 a permis d'apporter une vision sur la façon dont on regarde le conflit aujourd'hui, mais n'a pas bouleversé les connaissances sur cette période. Donc le chercheur sait faire le tri entre les données venues des amateurs et les données qu'ils récoltent par ailleurs. De plus, Rémi Matisse nous a apporté un complément sur le profil du contributeur. On peut dire que la frontière est de plus en plus floue entre amateurs et chercheurs, puisqu'en fait les casquettes sont posées différemment. Un chercheur va être amené à contribuer, et notamment en développant un article sur Wikipédia et inversement. Plusieurs questions étaient soulevées lors du débat. Une question a souvent été soulevée durant cet atelier autour du rôle de l'institution culturelle dans ce nouvel écosystème. L'institution, et notamment les bibliothèques, sont-elles légitimes à intervenir a posteriori sur des plateformes collaboratives pour valider les contenus ? La réponse a plutôt été non. La réponse est plutôt de dire que son rôle est de sélectionner les sources fiables. Elle doit intervenir sur le champ de la communication faite autour de ces données. Elle doit accompagner les usagers, notamment au travers de données d'autorité, être un lien entre l'apport du public et le travail scientifique. L'enjeu est d'avoir une relation bénéfique conjointe entre la foule et l'institution. La foule apporte les données non classées, et l'institution va les qualifier, va faire émerger l'intelligence collective. Enfin, pour terminer, beaucoup de questions se posent autour de la propriété intellectuelle des données. Il faut clarifier juridiquement la provenance des sources. Le statut des données sociales doit être posé.
Merci.
Alors pour l'atelier Open Data. Donc la présentation s'est déroulée autour de trois exemples donc tirés d'expériences très diverses de l'Open Data en bibliothèque. En premier lieu, ces trois exemples confirment la place des bibliothèques dans l'Open Data en tant qu'acteurs majeurs de la vie publique, en tant que producteurs de données normées et structurées, qui sont des conditions nécessaires à une réutilisation, bien qu'elles ne soient pas toujours ouvertes. Et en troisième lieu, comme médiateur de l'information, qu'il soit sous format papier, libre, électronique ou sur le web. Les bibliothèques confirment leur savoir-faire et une appétence pour la donnée et la métadonnée, qui en font donc un producteur, un réutilisateur et un médiateur, notamment en termes de diffusion et de valorisation des contenus. Donc le premier exemple était celui de Rennes, avec une expérience très pragmatique de l'open data, et je dirais même opportuniste dans le bon sens du terme, puisque la démarche venait d'une sollicitation de la part de la collectivité pour ouvrir des données. Une petite réflexion autour des données à ouvrir, des données qui ont été des données d'usage, donc de la fréquentation, du prêt, différentes informations sur les ouvertures de la bibliothèque, etc. Et du coup, avec le besoin de recourir à un interlocuteur extérieur pour animer la réutilisation de ces données. Il y avait la crainte d'une forme de prudence de la part des bibliothèques par rapport à l'open data. Est-ce que ça va être rentable? Est-ce que les données vont être réutilisées? Quel investissement je dois mettre là-dedans par rapport à un éventuel retour? Le bilan a été quelque peu mitigé, essentiellement en raison de freins techniques, technico-juridiques liés au système d'exploitation des données, et surtout à une limite constatée sur les données d'usage, puisque le véritable intérêt qui a émergé pour les bibliothèques dans l'open data est bien sûr les données des catalogues, qui constituent la véritable richesse de nos données. En conséquence, le deuxième exemple, donc, qui est celui de la BNU de Strasbourg, illustre davantage l'intérêt de l'open data pour les bibliothèques, puisqu'il se concentre sur une réutilisation des données de contenu. Les données qui ont été mises en ligne sont des données issues de la numérisation, de fonds patrimoniaux majoritairement, je n'énumérerai pas la richesse, mais qui a été maintes fois soulignée. Ces données donc, ont été mises à disposition de manière libre pour une réutilisation avec une licence en Creative Commons, donc réutilisation avec juste mention de paternité, sans besoin de... Enfin, c'est pas du Creative Commons, autant pour moi, je rectifie. Équivalence, c'est une licence étalable qui, du coup, a une davantage reconnaissance, mais qui se fonde sur les mêmes critères, à savoir pas besoin de payer de redevances pour ça, une réutilisation libre à l'identique. Donc ça a donné lieu à la mise en ligne de corpus très important, et du coup a illustré l'open data comme une solution économiquement intéressante pour les bibliothèques, puisque finalement cette mise en ligne des ressources de manière gratuite s'est révélée plus intéressante que de faire payer une redevance qui nécessitait en fait la mise en place de services importants en termes de facturation, de suivi, etc. En conséquence, la visibilité et la valorisation de ces collections a été renforcée et du coup a permis une meilleure valorisation des collections de la bibliothèque et un usage renforcé des collections. Donc l'open data s'est imposé dans ce cas-là comme une véritable stratégie de valorisation des contenus culturels et scientifiques pour une réutilisation par d'autres acteurs que simplement les bibliothèques. Donc la bibliothèque a été à la fois doublement producteur de données dans les cas précédents, d'un côté données d'usage, d'un autre côté données de contenu, mais c'est aussi un acteur de la réutilisation des données publiques, et c'est le cas illustré par la bibliothèque municipale de Fresnes, qui a décidé de monter son catalogue en réutilisant des données mises en ligne par d'autres bibliothèques, en l'occurrence par la Bibliothèque nationale de France, à travers son projet databnf.fr. Donc le projet OpenCat de la bibliothèque de Fresnes se base sur cette réutilisation des données de la BNF pour enrichir ses propres données locales. Donc c'est permettre une navigation dans son catalogue par des méthodes, comment dire, plus proches de la navigation sur le web, et la possibilité de naviguer dans des corpus de données qui ne sont pas uniquement ceux de la bibliothèque, mais qui peuvent être enrichis par des données d'autorité, en l'occurrence pas Wikipédia, mais je crois que c'était l'Institut de l'Académie de France, l'Académie française, il me semble, l'Académie française, c'était ça. Et donc, du coup, de proposer à ses lecteurs des données plus riches que simplement celles qu'elles possédaient au départ. La technologie choisie s'appuie sur le Link Data. Donc le Link Data, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nécessite pour être efficace que les données soient ouvertes. Et en ce sens, on rejoint la logique souvent prônée du Linked Open Data. Dans ce cas, dans le cas de Fresnes, l'Open Data n'était pas une finalité, mais bien une opportunité pour la mise en place de nouveaux services, et donc un enrichissement de ces contenus et une plus-value pour le public. Ce cas du coup de Fresnes illustre une idée intéressante, puisque souvent dans l'Open Data, on a reproché le risque de voir un investissement public uniquement capté par des intérêts privés. En l'occurrence, le cas de Fresnes illustre très bien que le développement de services publics à partir d'open data et d'investissements publics est bien une réalité. Ce cas de la bibliothèque de Fresnes et des autres de Rennes et de Strasbourg montre bien que l'intérêt de l'open data est de permettre aux bibliothèques de faire sortir leurs collections de leurs propres murs et de les exposer sur le web, et éventuellement de les lier également à d'autres institutions qui ne sont pas nécessairement des bibliothèques. Donc c'est à la fois une ouverture des données, mais également une ouverture à de nouvelles collaborations qui peuvent parfois être un petit peu compliquées. Ces expériences se sont heurtées en général à plusieurs difficultés, à la fois des difficultés politiques, à trouver une dynamique autour de la réutilisation de l'open data en l'absence de véritables médiateurs de la donnée. Une difficulté également à construire une offre de service qui est techniquement exigeante et qui nécessite d'agréger des données au format et aux standards divers, du coup avec un vrai travail à faire sur la curation de la donnée par rapport aux besoins du public qui doit être bien déterminé. Et enfin, une difficulté juridico-économique quant à l'ouverture des données, car évidemment dans certains cas, quand on souhaite lier des données à d'autres données, il faut que celles-ci soient également ouvertes. Or, dans le cadre de nouvelles collaborations, notamment dans les cas des collaborations dans les politiques de site évoquées par la BU de BNU de Strasbourg, on se heurte à des enjeux différents, à savoir des institutions qui n'ont pas nécessairement intérêt à ouvrir leurs données pour des raisons économiques, et auquel cas, loin d'apporter forcément des réponses immédiates, l'open data suscite de nouvelles interrogations sur qu'est-ce qu'une donnée culturelle, qu'est-ce qu'une donnée publique, à quel moment la donnée publique s'arrête. Et est-ce qu'il n'y a pas intérêt, c'est en tout cas l'objet des derniers lobbies, à demander une ouverture des données culturelles et scientifiques. C'est là-dessus que je terminerai du coup cette présentation, sur une petite ouverture sur justement, il y a l'open data d'un côté, mais il y a également d'autres mouvements qui voient le jour en ce moment, du côté de l'open science, et qui incitent à s'interroger sur la finalité de l'open data. Est-ce que l'open data est simplement l'ouverture des données publiques? Est-ce qu'on est simplement dans la transparence et la politique, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres enjeux du côté de la recherche et la valorisation des données scientifiques, du côté de l'open science? Et c'est encore une page entière de l'open data à écrire que je fais couvrir aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci. Chantal. Partager l'innovation.
Oui, donc partager l'innovation dans l'atelier 4. À quelle forme de médiation numérique? Alors, deux questions au préalable étaient posées pour orienter l'atelier. La première était de se demander comment saisir des usages en construction. Et la seconde était, existe-t-il une modification de la perception de ces appropriations? Alors, on a découvert cela à travers la présentation de trois situations d'expérimentation. La première étant Culture Walk, qui nous était présentée par Renaud Garcia. La seconde, Small Demons, par Richard Nash, mais qui intervenait en vidéo, enregistrée. Et la dernière par Alexandre Simonet, du Labo Carré de Nîmes. Alors, en quelques mots, je ne vais pas refaire toute la présentation de chacun des participants, mais Renaud Garcia nous a expliqué comment il avait conçu Culture Walk. Et il nous a expliqué, en fait, c'est ce qu'on en a retenu, que c'est vraiment un outil qui doit favoriser, donner accès à la connaissance à des gens qui n'ont pas de connaissances a priori. Qui n'ont pas de connaissances préalables. Et il nous explique qu'en effet, les usagers, soit ils ont la connaissance, à ce moment-là, ils ne passent pas par les bibliothèques, soit ils n'ont pas la connaissance, et à ce moment-là, ils n'osent pas se déplacer, aller demander au bibliothécaire un conseil sur un livre, etc. Donc, ce principe, il demande une implication personnelle de partage très fort, hein, qui va ensuite donner des tonalités, des identités très particulières à chaque walk, qui est en fait, si je peux résumer ça comme ça, tel que je l'ai compris, un moteur de recherche sensitive, donc qui est basé sur les sensorialités, sur les perceptions qu'en ont les lecteurs ou les usagers, puisqu'il s'agit aussi bien de texte que d'images ou de son. La deuxième expérience qui nous a été relatée, il s'agit bien d'une expérience puisqu'elle est à présent terminée, en tout cas sous cette forme-là, puisque Small Demons n'existe plus en tant que société, c'est celle de Richard Nash qui en fait nous explique qu'il est parti du livre et des détails du livre pour, à travers ces détails, que ce soit un lieu, un personnage, un événement, une boisson ou toute autre chose, naviguer par d'autres livres, toujours à travers ces détails. Donc c'est une expérience de lecture enrichie. Pour lui, c'est clair, le livre est lui-même son propre système de recommandation, et il va jusqu'à donc à nous expliquer que le livre n'est pas un objet manufacturé, le livre est un service. À partir de là, il développe effectivement cette navigation de livre en livre, mais aussi dans les disques, dans les vidéos, dans les films, etc., toujours à travers un détail. Et donc l'indexation de métadonnées très précises lues à travers les pages. La troisième présentation qui nous a été faite concernait le Labo Carré de Nîmes. Et donc Alexandre Simonet nous a rappelé l'histoire et le développement donc, de ce laboratoire des usages qui est développé dans l'interdisciplinarité et avec la collaboration d'artistes numériques. Et il nous a expliqué pourquoi et les compétences détenues par les artistes numériques. Et l'objectif était des questions d'innovation, mais au sens très large, que ce soit social, culturel, technique et professionnel. Je ne reviens pas sur les 50 grands axes qui président le Labo Carré. Je voudrais tout simplement en arriver à ce qui s'est dégagé en fait, du débat et des questions qui avaient été posées en entrée. La première peut-être des choses, c'est de constater que quels que soient les outils présentés ou les lieux et les expériences, on avait affaire ici à un accès horizontal, aux documents ou à la connaissance. L'accès horizontal se différencie d'un accès vertical aux documents qui est formaté par ce qu'on connaît depuis très longtemps de l'écrit. Et il se présente un peu comme une alternative aux recherches classiques, que ce soit des recherches, par exemple, catalogues, ou aussi, ça se présente comme des façons de s'approprier le lieu de la bibliothèque en ouvrant des portes vers des possibles. En fait, cet accès horizontal, on le retrouve à travers le développement de différents logiciels, quel que soit le point de départ qui a présidé à cette idée. Une notion aussi de richesse qui est revenue à plusieurs reprises. D'une part, j'ai noté, alors je n'ai pas noté à chaque fois le nom de tous les participants, mais nous avions des personnes d'Aix-en-Provence, de la BM, d'Aix-en-Provence Méjeanne, de la Gaîté Lyrique, de Rennes, de j'en oublie, de Sciences Po, de j'en oublie, mais je ne les cite pas à chaque fois, vous vous reconnaîtrez. Donc de cette richesse, ce qui est ressorti, c'est on n'a pas affaire à un référent pertinent, ni à un usage pertinent, ni à un usager pertinent. Il n'y a pas de notion de pertinence. On est aussi dans l'interdisciplinarité, donc on voit qu'on n'est pas du tout que dans le textuel, on traverse les différents formats. Et ce qui est apparu aussi, qui contribue à cette richesse, c'est la co-construction des connaissances, mais aussi des usages. Alors, la question qu'on peut se poser et qui a été posée au cours du débat, c'est cette capacité de production créative, donc qui semble être appelée par les outils, les expériences, les bibliothèques ou autres qui développent ce type de recherche, c'est comment est-ce qu'on peut le qualifier ? Existe-t-il des indicateurs pour mesurer ou pour évaluer cette production créative ? Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vous donnerai pas la réponse, il n'y en a pas. En revanche, on a aussi beaucoup parlé des usages en eux-mêmes et de l'usager, du modèle d'usager. Y a-t-il un modèle d'usager ? Il n'est pas arrêté. L'usager, il peut être étonné, il peut être satisfait, il peut faire quelque chose, vouloir faire quelque chose, ça a été dit à plusieurs reprises, ça rejoint la notion de co-création, il peut venir chercher de l'énergie, mais il peut aussi, et il ne faut pas l'oublier, ne rien vouloir, simplement exister. Dans ce qui a été la notion la plus forte qui ressort, c'est que sans médiation, un outil, une expérimentation n'est rien. Et la qualité de cette médiation, elle ne se mesure pas à l'objet qui est objet de la médiation, il se mesure à la mise en place de cette œuvre d'accompagnement. Il a été souligné à plusieurs reprises que la co-création, si on ne l'accompagne pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas tout seul. Il faut qu'on emmène l'usager, il faut qu'on lui raconte une histoire, il faut qu'on l'emmène sur des chemins. Ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on dit qu'il faut qu'on lui raconte des histoires, on retrouve là la puissance de la narration, enfin de l'histoire, et donc qui se manifeste elle-même dans la médiation, non plus dans l'objet, livre ou document, mais dans la médiation elle-même. Souligné aussi à plusieurs reprises, et je pense que ça intéresse aussi toutes nos professions, c'est qu'on est tous en cours d'auto-formation dans nos propres médiations, parce que toutes ces formes, ces nouvelles formes, ces recherches de formes interrogent nos propres pratiques, nos préjugés, nos façons de faire plus ou moins classiques ou plus ou moins ancrées dans des chemins balisés. La question qui se pose de où, à quel moment insérer l'usager dans ces médiations, plusieurs personnes ont dit que le plus en amont possible était l'idéal, même si ce n'était pas toujours facile. Quelques exemples ont été donnés, notamment, même si ça ne touche pas que le numérique, mais il y a une forte part de numérique, dans des actions de type biblio-remix. Enfin, pour terminer, l'importance du contexte d'usage m'a semblé être dans la fin de l'atelier une notion qui en fait s'imposait et qui s'imposait à tel point que peut-être ce contexte de l'usage prenait la place du modèle d'usage lui-même. Soit que ce modèle est complètement à construire ou à découvrir, soit que le contexte d'usage aujourd'hui paraît plus important que ce modèle. Pour résumer et vraiment pour conclure cette fois-ci, on est parti de la question comment observer les usages et les usagers. Et me semble-t-il, en filigrane de cet atelier, on pouvait percevoir que peut-être il n'y avait pas tellement d'usages ou pas autant d'usages ou d'usagers tels qu'attendus dans nos esprits. Et en fait, les réponses qu'on a tenté d'apporter, les pistes qui ont été données, concernaient plutôt comment suggérer les usages, comment les aiguillonner, comment les susciter. Donc là aussi, il y a eu une dérive de la question aux pistes de réponse, ce qui n'empêche pas de continuer à y travailler. Merci.
Merci. Donc au terme de ces ateliers, des observatoires des usages du numérique, je tiens tout d'abord à adresser des remerciements à la Bibliothèque publique d'information qui nous a accueillis et qui va assurer un prolongement d'ailleurs à cette journée en mettant sur son site des archives sonores, alors non pas de la totalité de la journée, mais de l'introduction et en particulier de la présentation des observatoires et puis de la conclusion, c'est-à-dire de la restitution des ateliers notamment. Je tiens à remercier également les intervenants, les animateurs, les rapporteurs, particulièrement les rapports des derniers ateliers qui ont dû, et là je suis admiratif, rédiger rapidement une synthèse. Je tiens également à remercier tous les participants parce que un des enjeux de cette journée est qu'il y ait une participation active des personnes donc dans l'assistance. C'est bien pour cela que nous avons adopté cette forme d'atelier, même si en termes spatial, ça n'est pas l'idéal. De ce point de vue-là, je dois dire que c'est une réussite et ça nous incite sans doute à progresser dans ces échanges sous forme d'atelier. Je tiens à remercier également pour leur soutien le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et vous faire part également de l'intérêt très vif manifesté au plus haut niveau par le ministère de la Culture et de la Communication pour ces travaux des observatoires, puisque la ministre elle-même, en s'adressant donc dans sa conférence d'hier au Salon du Livre, parmi les points qu'elle a abordés, insisté sur le fait qu'il était nécessaire pour construire les stratégies numériques de mieux connaître les usages, elle a mentionné les travaux de ces observatoires, signalé que ces observatoires se réunissaient pour la première fois aujourd'hui et émis le souhait qu'il y ait une pérennisation de ces travaux et en l'occurrence en exprimant une commande au niveau politique, à savoir que soit élaboré un baromètre des services et des usages du numérique en bibliothèque. Donc je note cet intérêt au plus haut niveau et qu'il y a une reconnaissance de ces travaux qui étaient pour l'instant un peu confidentiels. Alors je dois dire que, vous vous connaissez entre vous, j'ai pu le voir au cours de l'année passée en préparant cette journée au cours de plusieurs réunions. Parfois, vous travaillez ensemble sur tel ou tel projet, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, l'existence de ces observatoires, même s'ils ne sont pas encore formalisés tous sous cette structure d'observatoire, était assez peu connue, même s'il y a au fil du temps des publications, des enquêtes, des résultats d'enquêtes qui étaient connus. Donc le premier mérite de cette journée a été pour moi de mon point de vue, de faire connaître les travaux des observatoires, mais aussi de la part des participants, par les questions, les sujets d'intérêt qu'ils ont exprimés, donc de connaître effectivement les attentes, non seulement des bibliothécaires, mais aussi d'autres milieux, parce que le numérique, et c'est aussi une des choses qu'il faut retenir, le numérique est quelque chose qui dépasse, qui est plus grand que le numérique en bibliothèque, bien sûr. On s'aperçoit souvent que la bibliothèque, pour travailler sur le sujet, n'est pas le seul champ d'observation. Je note aussi que, et c'est normal, que ces observatoires ont des angles d'approche différents, travaillent sur des sujets, des projets qui ne sont pas tous les mêmes, mais qu'il y a des convergences et qu'il est souhaitable que les échanges se poursuivent. Il est nécessaire d'échanger entre vous, mais aussi de mieux faire connaître vos travaux et de faire circuler effectivement l'information sur ces travaux. Alors quand nous avions préparé cette journée, ou tout au moins, il me semble que c'est une des recommandations de la Commission Bibliothèque Numérique dans son dernier rapport, nous avions émis le souhait qu'il y ait effectivement une journée de rencontre entre ces observatoires. Nous avions émis une autre idée, qu'il y ait une plateforme d'échange, c'est-à-dire que les personnes intéressées puissent facilement avoir accès à l'information sur le sujet. Il me semble même que parmi les observatoires, l'ENSIB, alors Benoît Hépron est encore là, était prêt, mais je sais que Anne-Marie Bertrand l'avait dit aussi, était prêt à s'engager, mais avec le soutien des autres observatoires sur le sujet. C'est peut-être une question qu'il faut reprendre, sur laquelle il faut progresser. Bon, en même temps, il faut avoir des buts, même si on est ambitieux, il faut avoir des buts réalistes pour progresser au fur et à mesure. Donc j'espère que déjà, quand on a commencé à travailler sur cette journée, je n'étais pas sûr moi-même qu'elle se tienne, donc le fait qu'elle se soit tenue est déjà une réussite. Donc je pense qu'on pourra progresser également dans la structuration des démarches de ces observatoires. Pour conclure, je dirais que j'ai noté qu'il y a deux types de besoins qui s'expriment. Un type de besoin qui est vraiment de la recherche, de l'anticipation sur les expérimentations ou même de l'expérimentation, mais un besoin aussi d'études pratiques qui, en quelque sorte, vont de l'expérimentation à la diffusion. Je pense à l'intervention de la collègue de l'Agence régionale du livre PACA, qui disait que donc en Provence, enfin dans sa région, plusieurs voulaient se lancer dans une étude sur les liseuses et demander donc s'il y avait déjà des enquêtes, des données disponibles sur le sujet. Il y a ce besoin aussi à prendre en compte la recherche de méthodes, le besoin d'avoir aussi des aides quand on construit des cahiers des charges pour une étude, sachant que de toute façon, chacun est libre et indépendant pour définir les objectifs propres de son étude. Ça correspond à des besoins de telle ou telle collectivité. Mais donc aussi de s'appuyer sur des apports, sur des données disponibles. Et donc, de ce point de vue-là, communiquer, faire circuler l'information, échanger, c'est ce qui permettra à tous de progresser et globalement d'améliorer le service que les bibliothèques apportent à toutes et à tous. Voilà, merci.